Bonjour à tous. Réfléchir sur le pouvoir exécutif, réfléchir sur ce qu'est un gouvernement démocratique, présuppose préalablement de comprendre pourquoi, en démocratie, historiquement, c'est le pouvoir législatif qui a été sacralisé et le pouvoir exécutif considéré comme secondaire et même dénié dans son autonomie. Et c'est en second lieu comprendre pourquoi les visions du progrès démocratique ont toutes été organisées historiquement autour de l'idée de peuple législateur et non pas organisées autour de l'idée de peuple bien gouverné. Cette première heure est donc consacrée à réfléchir aux conditions de la sacralisation du pouvoir législatif et du déni historique du pouvoir exécutif. L'histoire de la modernité libérale s'est confondue, en effet, avec l'érection des droits de l'homme en principe fondateur de la vie sociale. C'est dans la garantie de leur exercice que tout pouvoir allait dorénavant devoir fonder sa légitimité. Mais à côté de ces droits considérés comme naturels, c'est-à-dire participant d'un ordre moral donné, auquel nul ne saurait contrevenir, s'est aussi progressivement affirmé un positivisme juridique dérivant de la reconnaissance d'une autonomie du politique. Si les lois de nature et les lois civiles ont alors été largement comprises comme devant être liées, Hobbes disait qu'elles se contiennent mutuellement, ces dernières n'en ont pas moins été reconnues dans leur dimension pratique d'établissement humain de l'organisation sociale. L'idée de la loi est de la sorte devenue inséparable de celle de souveraineté. On ne s'étonne donc pas que Bodin ait été l'un des premiers à sérieusement distinguer la loi du droit. Alors que le droit se rattachait pour lui à la perspective morale d'équité, il notait, je le cite, « la loi emporte commandement, car la loi n'est autre chose que le commandement du souverain, usant de sa puissance ». L'idéal démocratique retiendra de cette définition le fait que la notion de souveraineté du peuple implique logiquement l'avènement d'un peuple législateur. C'est ce qu'affirme l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je cite, « La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à sa formation. » L'idée de peuple législateur n'est là qu'une conséquence du processus de translation de la souveraineté. Mais c'est parallèlement la notion même de loi qui a alors été redéfinie. D'une double façon, force de commandement, la loi a aussi été pensée comme devant simultanément être une figure de la raison, à distance de la connotation de bon plaisir ou de décision arbitraire qu'elle avait chez Bodin. Les lois ne sont pas de purs actes de puissance, mais des actes de sagesse, de justice et de raison. C'est ce que dira Portalis, le père du Code civil français. La loi du peuple se distingue d'abord en cela de la loi du monarque, mais elle s'en distingue aussi vers la fin du XVIIIe siècle en s'inscrivant dans une vision renouvelée de la gestion des hommes et des choses. Alors que la loi mêlait encore chez Bodin ce qui est de l'ordre de décisions circonstancielles et ce qui relevait de principes généraux et pérennes d'organisation publique, la loi tendra à ne plus se concevoir à partir de la fin du XVIIIe siècle que sous ses dernières espèces. Rousseau invitera en ce sens à rejeter fermement toutes les vues particulières, c'est son expression, qui pourraient altérer la sainteté de son ouvrage. Le règne de la particularité était à la fois dénoncé comme l'expression d'une politique arbitraire et la manifestation d'une absence dommageable de rationalité. Au XVIIIe siècle, l'idée d'un règne de la loi dans ses différentes dimensions renvoyait en ce sens à la visée d'un pouvoir de la généralité d'ordre indissociablement procédural et substantiel. La loi était en même temps une norme et une forme. Mais cette visée ne s'inscrivait pas simplement dans une ambition platement technique. Elle était plus profondément liée à une double utopie politique. Elle était d'abord implicitement attachée à la figure d'un législateur démiurge, instituteur souterrain et souverain de l'ordre du monde, dont Rousseau parlera à de nombreuses reprises. Législateur qu'il considérait comme un metteur en forme du genre humain. Et c'est en effet dans ces termes que Jean-Jacques considérait son rôle. Selon ces fameuses formules, le législateur était celui qui ose d'entreprendre d'instituer un peuple, ayant pour objectif, je le cite, de transformer chaque individu qui par lui-même est un tout parfait et solitaire en une partie du plus grand tout. Le législateur est donc chez Rousseau un généralisateur instituteur du social. Au XVIIIe siècle, il y a eu une véritable passion des lois. Dans le cas français, la monarchie s'était certes attelée, dès le XVIIe siècle, à un travail d'unification juridique. Mais l'objectif était alors essentiellement pratique. Il s'agissait de simplifier la vie sociale et de faciliter l'action publique en visant à uniformiser le maquis des coutumes. Dans le préambule de l'ordonnance de 1667 sur la procédure civile, Colbert avait ainsi appelé de ses vœux, je le cite, « la formation d'un corps de loi précise et certaine qui dissipe toute obscurité des précédentes ». L'enjeu était là, très pragmatiquement, de diminuer les conflits et les controverses liées à l'imprécision et à l'accumulation des textes. Et dans le préambule de l'ordonnance des donations de 1731, d'Aguesseau, un des plus grands juristes de l'Ancien Régime, faisait dire en ce sens à Louis XV « La justice devrait être aussi uniforme dans ses jugements que la loi est une dans ses dispositions et ne pas dépendre de la différence des temps et des lieux comme elle fait gloire d'ignorer celle des personnes. Tel est l'esprit, continuait-il, de tous les législateurs, il n'est point de loi qui ne renferme le vœu de la perpétuité et de l'uniformité. La rationalisation de l'État et le perfectionnement du droit allaient donc de pair à ses yeux. La bonne loi était celle qui ne laissait prise à aucune indétermination dans son application. Un autre grand juriste, même s'il n'a pas été que cela de la période, l'abbé de Saint-Pierre, disait « Les lois doivent être si claires que chacun, en les lisant, y voit non seulement la décision du cas qu'il cherche, mais qu'il la voit encore, s'il est possible, d'une manière à n'avoir pas besoin d'interpréter. La loi, en d'autres termes, devait être l'expression de la raison générale, incarnant indissociablement les deux principes de rationalité et de généralité. Il est à propos, en concluait Saint-Pierre, de faire en sorte que chaque loi, par sa généralité, par la généralité de son expression, comprenne et embrasse toutes les espèces de cas particuliers sans exception. Il faudra attendre l'œuvre de la Révolution, on le sait, pour que cette uniformisation des coutumes soit accomplie. Mais au-delà de cette visée technique, l'objectif était devenu beaucoup plus ambitieux, dans les pays européens de droit romain en tout cas. Il était de révolutionner l'action publique, d'en évacuer toute forme d'arbitraire, de la désubjectiver radicalement, en mettant au poste de commandement le pouvoir objectif de la règle. C'est Beccaria qui donnera tout son éclat à une telle conception du rôle de la loi dans son ouvrage « Des délits et des peines ». Le point de départ de Beccaria peut certes être qualifié de classiquement libéral. Son objectif immédiat dans cet ouvrage et dans tout son travail de juriste était de proposer un remède à l'incohérence de la justice qui pouvait, selon les lieux, infliger des peines fort variables pour des délits identiques. Et comme de nombreux philosophes du XVIIIe siècle, voire Voltaire par exemple, il sera omnibulé par la question de l'erreur judiciaire. révolté par l'arbitraire des condamnations. Et c'est le pouvoir d'interprétation des juges qui était, à ses yeux, l'origine de ces variations coupables. D'où le combat pour une objectivation du droit qui conduirait à réduire l'indétermination de la loi dans sa confrontation à la diversité des faits. L'établissement d'une vraie justice, capable de prévenir l'arbitraire par son impersonnalité, impliquait pour le XVIIIe siècle que l'application de la lettre de la loi s'impose avec évidence. En présence d'un délit, estimé par exemple Beccaria, le juge doit former un syllogisme parfait qui ferme la porte à l'incertitude. Pour cela, la loi générale et les faits devaient se superposer exactement. Amour de la loi et défiance vis-à-vis du juge iront pour cela de pair chez de nombreux hommes des Lumières, rompant en cela avec l'esprit de ce qu'on avait parfois qualifié de théocratie judiciaire, qui inspirait par exemple un Doma ou un Daguesso. Au tournant du XIXe siècle, Bentham fera en conséquence d'une science de la législation le vecteur essentiel d'une révolution indissociablement démocratique, morale et méthodologique. Il formulera ainsi, en 1789, le projet d'un pannomium, appelé à être au droit ce qu'il concevra plus tard avec le panoptique en matière de réforme carcérale. De Beccaria à Bentham, le sacre de la loi a donc clairement été lié, au temps des Lumières, à l'idée d'une politique nouvelle, au projet de l'avènement d'un pouvoir objectif, celui de la généralité. L'idée de la loi a effacé dans ces conditions celle de bon gouvernement pour penser au XVIIIe siècle un ordre politique juste. Il suffit de peu de lois pourvu qu'elles soient bonnes pour régir la société. Tel a été le leitmotiv de la période. D'où la vision nostalgique de l'œuvre d'un Lycurgue, le grand législateur mythique de Sparte, qui a traversé le siècle des Lumières. Lacédémone, notait ainsi Daguesso, est peut-être la seule république qui ait eu un véritable corps de législation composé d'un petit nombre de lois, mais toutes rapportées au bien commun, toutes efficaces et toutes exécutées. Et l'encyclopédie résumait bien de son côté le sentiment de l'époque en estimant que, je cite, « la multiplicité des lois prouve, toutes choses égales, la mauvaise constitution d'un gouvernement ». Et Rousseau, de son côté, s'emportait plus encore en disant « si l'on me demandait quel est le plus vicieux de tous les peuples, je répondrais sans hésiter que c'est celui qui a le plus de lois ». Forme de la généralité et incarnation d'une raison indissociable d'une morale sociale, on imaginait donc aussi que le corps des lois devait rester limité. C'est, au début de la Révolution, ce qu'avait exprimé avec force Cambacérès en présentant le premier projet de code civil. Que ce soit en un mot, avait-il conclu, par le petit nombre de textes que nous arrivions à cette unité harmonique qui fait la force du corps social, qui en dirige tous les mouvements dans un accord merveilleux, à peu près comme les lois saintes de la création président à la marche et à l'harmonie de l'univers. Et il poursuivait, des règles simples, faciles à saisir, plus faciles à exécuter, voilà quel est le résultat de nos veilles et le fruit de nos méditations. Générales et peu nombreuses, les lois devaient aussi rester pour lui permanentes. Vous n'oublierez pas, avait dit Cambacérès, que l'immutabilité est le caractère d'une bonne législation. Les lois, une fois rédigées, doivent devenir un dépôt sacré. Généralité, simplicité, permanence, en présentant ces caractères, les lois étaient censées pouvoir gouverner adéquatement et sans réserve les hommes et les choses. La particularité et l'événement dont se nourrit l'exercice du pouvoir exécutif avaient de la sorte été considérés comme devant être évincés. Le droit d'un côté et le marché de l'autre, le marché étant une autre forme de l'impersonnalité, je l'ai déjà signalé, puisqu'il est régi par une loi naturelle, celle de la main invisible, l'harmonie naturelle des intérêts n'ayant pas besoin de pôle régulateur. Le droit d'un côté et le marché de l'autre réduisaient donc, pour les hommes des Lumières, l'espace du politique comme sphère de la décision gouvernementale. Ces deux visions de ce qu'était une loi, distinctes en ce sens que l'une était positiviste tandis que l'autre était naturaliste, convergeaient pour marginaliser l'idée de pouvoir exécutif et le rôle d'une volonté politique immédiatement active. L'idée même de gouvernement s'en trouvait de la sorte vidée de son contenu et discréditée. La culture politique révolutionnaire française a radicalisé de façon éclatante cette sacralisation de la loi au détriment du pouvoir exécutif. Les hommes de 1789 n'ont ainsi jamais cessé de célébrer la première. La nation, la loi, le roi, de ces trois puissances formant à leurs yeux Trinité, c'est à la loi que revenait la place centrale. Et les monnaies frappées à partir de 1791 portaient d'ailleurs significativement comme devise à leur avers « règne de la loi ». Et l'iconographie de la période a magnifié sous de multiples formes ces trois lettres commandantes. Et un grammairien de l'époque avait même de façon significative proposé de considérer que la France n'était bien sûr plus un royaume, mais qu'elle devait devenir un loyaume. Si quelques voix s'agacèrent alors de ce qu'on a commencé à appeler une nomomanie, la manie des normes, elles restèrent marginales et ne furent pas écoutées. On ne doit donc pas s'étonner de voir que des sociétés patriotiques en grand nombre ont pris, en 1791 surtout, le nom de société comme Société des Amis de la Loi, ou celui plus avant de Société des Nomophiles. Et dès les premiers jours de 1790, à un moment où la Société des Amis de la Constitution, qui allait devenir le Club des Jacobins, faisait de timides premiers pas, Gilbert Rome avait déjà lancé avec succès, avec Théroigne de Méricourt, une Société des Amis de la Loi, qui se réunissait chez cette dernière. Et une des premières grandes fêtes révolutionnaires sera celle du printemps 1792, une fête de la loi. Ce sera, après celle de la Fédération, l'une des toutes premières qui fut organisée en grande pompe dans les rues de la capitale, faisant défiler une forêt de bannières où se répétaient les inscriptions « La loi, respect à la loi, mourir par la loi, vive la loi ». De tous côtés, on s'exprimait avec spontanéité et ferveur pour marquer l'enthousiasme et l'approbation à ce sujet dans de nombreuses réunions publiques. La référence à la loi pendant la Révolution française était omniprésente dans l'ordre des arguments comme dans celui des émotions. Sur les 17 articles que compte la Déclaration des droits de 1789, il y en a 7 qui font référence aux fonctions de la loi et établissent sa centralité. Même un Saint-Just, pourtant peu attaché aux formes, se trouvera spontanément porté à dire « Hors des lois, tout est stérile et mort ». Et Michelet sera donc fondé à caractériser le premier mouvement de la Révolution comme celui d'un avènement de la loi. Mais ce constat doit cependant être approfondi. Derrière une invocation apparemment univoque de la loi, se superposent en effet, pendant les débuts de la Révolution française, trois différentes approches. La première, de la loi, pourrait se qualifier de libérale. Elle oppose banalement les vertus d'un état de règles aux errements d'un pouvoir arbitraire. C'est aussi la vision anglaise classique, voire les commentaires de Blackstone. Mais l'idée d'un règne de la loi renvoyait aussi, en 1789, à l'univers physiocratique, dans lequel le bon gouvernement se définissait par le fondement rationnel de ses actes et non par la nature des procédures qu'il utilisait. La célébration de la loi participait en troisième lieu de la reconnaissance du rôle commandant de la volonté générale dont elle apparaissait dorénavant comme l'émanation, comme le célébrait fameusement l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Le problème était que ces trois visions, la vision libérale, la vision rationaliste et la vision démocratique, pour simplifier, étaient loin d'être équivalentes. Le règne de la loi, que les hommes de 1789 appelaient de leur vœu, avait d'abord eu une dimension évidemment libérale. La loi apparaissait comme le gage de la liberté, pour reprendre une expression qui fleurissait dans les nombreuses adresses à l'Assemblée nationale. La loi, disait par exemple Talleyrand, ne doit être que la liberté elle-même. Et le règne de la loi constituait en effet, aux yeux de tous, l'antithèse de l'arbitraire. Et les formules canoniques de Montesquieu étaient sur ce point dans toutes les têtes. Le despotisme étant spontanément stigmatisé comme un régime dans lequel, je cite Montesquieu, un seul, sans loi et sans règles, entraîne tout par sa volonté et ses caprices. Pour dire les choses autrement, le despotisme était assimilé au pouvoir de la particularité, le bon vouloir du prince comme signifiant l'arbitraire, en même temps que la liberté était d'un autre côté garantie par la généralité de la règle. Généralité comme origine, la production parlementaire, généralité comme forme, le caractère impersonnel de la norme, et généralité comme mode d'administration, l'État. Le prestige de la loi procédait de cette triple équivalence. La loi était à la fois un principe d'ordre qui permettait de transformer un nombre infini d'hommes en un même corps, étant de la sorte en la République ce que l'âme est au corps. Ce sont des formules célèbres d'avocats généraux du XVIIIe siècle, et un principe de justice, puisque, en leur généralité, les lois ne connaissaient personne en particulier. Ce qui leur permettait, toujours selon une formule célèbre d'un avocat général, d'être une intelligence sans passion. La célébration révolutionnaire de la loi consonnait en second lieu avec l'impératif de rationalisation juridique qui avait émergé au XVIIIe siècle. Et le développement d'une vaste entreprise de codification, on l'a déjà évoqué, s'inscrira dans cette perspective en l'activant fortement. Et c'est le terme de code qui donnera son horizon à cette volonté réformatrice de substituer une législation uniforme et rationnelle à la bigarrure précédente des coutumes. Et la Constitution de 1791 prévoira pour cela explicitement qu'il sera fait un code civil commun à tout le royaume. La codification était pour les constituants une véritable thérapeutique, tant intellectuelle que politique. Elle ne se réduisait pas à une entreprise technique, comme l'était le projet plus ancien de rédiger les coutumes pour les fixer. Et en présentant les premiers éléments de cette œuvre codificatrice, Cambacérès, comme je l'ai déjà dit, avait plaidé pour l'adoption d'un édifice simple. Il est d'ailleurs significatif que le premier projet de Cambacérès sera repoussé par l'Assemblée parce qu'il avait été jugé trop développé dans ses détails et trop peu philosophique dans son ensemble. La loi, en troisième lieu, avait une dimension éminemment démocratique puisqu'elle était l'expression de la volonté générale. Elle était de cette triple façon l'incarnation d'un règne de la généralité. Cette conception de la loi a eu une dimension totalisante pour les révolutionnaires français. Elle ne se dissociait pas pour eux de l'utopie d'un pouvoir capable de saisir entièrement la société, de la mouvoir en ses détails. Et la philosophie de la loi trouvera pendant la Révolution, dans cette utopie, son ressort le plus puissant. Le règne de la généralité, qu'on appelait de ses vœux, n'était donc pas uniquement d'ordre procédural. La loi n'était pas simplement une norme efficace et légitime pour les hommes de 1789. Elle était un opérateur politique. Elle appelait d'une certaine façon à reconstruire la réalité elle-même en une abstraite vérité. Le prisme de la généralité gommait les aspérités du monde pour constituer ce dernier dans la transparence à son concept. En bannissant tout rapport à la particularité, la loi entendait dessiner un monde parfaitement juste et ordonné en sa réduction simplificatrice. Et nul n'a mieux exprimé cette visée que Merlin de Douai, un des grands jurisconsultes de la période, l'auteur du plus grand recueil de jurisprudence de la période post-révolutionnaire. « Pour que l'objet des lois soit censé général, écrivait-il, il suffit qu'elles considèrent abstractivement soit les personnes, soit les choses sur lesquelles elles prononcent. La procédure se réfléchissait ainsi pour lui sur son objet pour le modeler. » L'œuvre de Rousseau avait déjà exprimé de façon exemplaire ce déplacement-retournement. Jean-Jacques partageait certes avec ses contemporains la considération de la loi comme pouvoir neutre et partant structurellement garante des libertés. L'impersonnalité de la loi était bien pour lui la première de ses qualités, mais il n'en restait pas là. L'originalité de son approche était de confondre la forme et la matière de la loi. Ce n'était pour lui que deux façons convergentes de confondre la forme et cette généralité sociale. C'est cette double universalité de la forme et de la matière qui fait le vrai caractère de la loi, disait Rousseau. Si la loi réunissait la généralité de l'objet et de la volonté, ce ne pouvait être seulement en retranchant les particularités du monde pour n'en conserver qu'un résidu commun. De même que la volonté générale se définissait d'une certaine manière contre les volontés particulières, la généralité sociale se construisait contre la réalité, réalité toujours particulière en effet. Reprenons sur ce point la formulation classique du contrat social. Quand je dis, écrit Rousseau, que l'objet des lois est toujours général, j'entends que la loi considère les sujets encore et les actions comme abstraites, jamais un homme comme individu, jamais une action particulière. La généralité n'avait donc pas seulement une dimension méthodologique ou procédurale pour lui. Elle était une construction sociale. Elle était une fiction. Fiction qui est la condition même de l'efficacité juridique. Le langage juridique ne possède en effet de vertu universalisatrice qu'à cette condition de la fiction. On fait comme si des catégories de faits particuliers se résumaient dans une catégorie unique. Le problème est que cette mise en fiction, qui constitue la condition technique du droit, il n'y a pas de droit sans fiction, finit par se confondre avec la réalité dans le monde politique, comme en témoigne d'ailleurs de façon exemplaire le mouvement à l'œuvre dans le contrat social. L'amour de la loi finit en effet, chez Rousseau, par se lier à une entreprise de distanciation de la réalité. Dans la dénonciation de la particularité, dans la dénonciation de l'individualité, il y a en quelque sorte une montée en généralité qui est aussi une distanciation de la réalité. Une véritable utopie a de la sorte sous-tendu toute l'ardeur codificatrice de la période, celle de gouverner parfaitement le monde en le remodelant, pour le rendre absolument préhensible, parce que abstractisé. Et nul n'a mieux exprimé que Jean Carbonnier, un grand juriste contemporain récemment décédé, le lien entre ce qui s'apparente, pourrait-on dire, à un phénomène de psychologie juridique et une certaine vision politique. Légiférer, disait Carbonnier, est un plaisir d'une qualité plus exquise que commander. Ce n'est plus l'ordre grossier que le maître jette à l'esclave, le chef au soldat, l'impératif immédiat et sans avenir. Non, c'est la loi qui est l'ordre sans visage, qui se veut universel, éternel, à l'instar, à l'égal de la divinité. C'est l'ordre lancé dans le temps à la rencontre d'une foule anonyme et d'invisibles générations. Et c'est ce fait que le plaisir de légiférer était plus exquis et plus puissant et plus profond que le pouvoir de commander que chérissaient aussi les hommes de la Révolution dans la puissance de la généralité. Cette vision totalisatrice de la généralité et la permanence invitée à appréhender la loi comme absolument adéquate à la réalité dans sa diversité. C'est dire, en d'autres termes, que l'énoncé de la loi devait pouvoir absorber la pluralité des possibles, l'infinité des particularités, et conduire à une parfaite maîtrise du monde dans la durée, rejetant le spectre menaçant de l'imprévu. Et qu'est-ce que le pouvoir exécutif, si ce n'est justement la décision faisant face à l'imprévu ? La fabrique du droit participait ainsi d'une entreprise de rationalisation du monde qui prolongeait la visée du rationalisme politique était à l'œuvre, aussi bien dans le projet physiocratique que dans la perspective rousseauiste que je viens d'évoquer. La souveraineté de la loi ne signifiait donc pas seulement dans ce cas affirmation de l'état de droit, mais ambition du législateur d'absorber toutes les fonctions politiques, et notamment le judiciaire et l'exécutif. Et c'est de cette sacralisation de la loi, de cette souveraineté absolue de la loi, qu'ont dérivé le déclassement du pouvoir judiciaire et du pouvoir exécutif. La culture politique révolutionnaire a d'abord déclassé le pouvoir judiciaire. On a clairement pu le constater en 1790, dans la grande discussion sur la réforme judiciaire. On ne saurait revenir ici sur l'ensemble de cette question qui a retenu pendant plusieurs mois l'Assemblée constituante sous la houlette de Touré, le grand juriste rouennais. Il vaut cependant la peine de rappeler, même très brièvement, les termes dans lesquels, parce qu'ils sont très significatifs, les termes dans lesquels a alors été appréhendée l'organisation du tribunal de cassation par la loi du 27 novembre 1790. S'il reconnaissait avec Barrère que la mise en place d'une procédure de révision de la loi est un malheur, mais un malheur nécessaire, les constituants étaient avant tout pénétrés du danger que constituerait un pouvoir autonome d'interprétation de la loi par un tribunal, et notamment par une cour de cassation. Ce que fait en fin de compte la cour de cassation, c'est en effet prononcer une interprétation nouvelle de la loi. Et s'il concevait, ses constituants, qu'une telle instance puisse avoir une fonction technique de maintenir l'unité de la législation, il redoutait aussi qu'un tribunal de cassation, appelé à être le gardien ou le protecteur des lois, n'en devienne insidieusement le maître. Ils décideront en conséquence, ce qui a été extrêmement important pendant la période, ils décideront que la chambre de cassation serait unique et qu'elle serait sédentaire auprès du corps législatif. La chambre de cassation ne serait donc pas un tribunal ordinaire, mais qu'elle serait auprès du corps législatif. De telle sorte, disait le rapporteur de la commission sur ce point, que ce soit la loi elle-même qui soit à chaque fois précisée, sans que jamais se forme une jurisprudence à proprement parler. C'était donc la loi elle-même qui était reprise et non pas la jurisprudence qui produisait de l'interprétation. L'activité du tribunal de cassation sera d'ailleurs pratiquement limitée pendant cette période à une annulation d'ordonnance jugée en contravention formelle avec un texte ou dérivant d'une fausse application de la loi, c'est-à-dire véritablement une fonction purement technique, pourrait-on dire, de lissage juridique. Suivant cela, scrupuleusement, la lettre d'un décret qui notait que le recours en cassation ne devait avoir lieu que dans le cas d'une contravention expresse au texte de la loi. Ce n'est pas seulement le pouvoir judiciaire qui était déclassé, c'est, pour ce qui nous intéresse, surtout le pouvoir exécutif, qui s'est trouvé disqualifié et marginalisé, puisque, par essence, il n'opère que par des actes particuliers. Il a donc été, ce pouvoir exécutif, jugé dangereux et suspect, la particularité étant par définition ce qui corrompt l'établissement d'un pouvoir de la généralité. La puissance exécutive, indiquait déjà Rousseau dans le même esprit, la puissance exécutive ne peut appartenir à la généralité comme législatrice ou souveraine, parce que cette puissance exécutive ne consiste qu'en des actes particuliers qui ne sont point du ressort de la loi, ni par conséquent de celui du souverain, dont les actes ne peuvent être que des lois. Si Rousseau reconnaissait le rôle de l'exécutif, il ne le concevait donc que comme subordonné et dérivé. D'où la menace que constituait à ses yeux ce pouvoir exécutif s'il devenait trop actif. Le problème était pour lui d'autant plus important qu'il y avait une dissymétrie structurelle entre le législatif et l'exécutif. C'est le fait que le législatif était intermittent alors que l'exécutif était permanent. Et le règne de la loi, identifié à celui de souveraineté du peuple, impliquait donc de tenir compte, pour la corriger, de cette dissymétrie structurelle. Et elle impliquait, en conséquence, de canaliser et de contraindre fortement le pouvoir exécutif. Et on sait que, dans le prolongement de cette approche rousseauiste, Sieyès appellera de ses voeux la permanence du pouvoir législatif, et que cette permanence du corps législatif a été considérée, le siège permanent, alors que la tradition des tribunaux, la tradition des parlements partout en Europe était que les parlements étaient réunis durant des sessions, et que ces sessions, elles pouvaient même être très espacées. C'est le cas des États généraux français, ils ont été espacés de plusieurs siècles, les sessions. Mais c'est également le cas aux communes, où les sessions étaient généralement très espacées. Et ce sera longtemps le cas, d'ailleurs, au XIXe siècle, dans la tradition parlementaire française. Il y a des sessions parlementaires. Et Sieyès, au contraire, avait pensé qu'il fallait organiser cette permanence du corps législatif pour contraindre l'exécutif. Il est frappant que tous les hommes de 1789 ont partagé cette disqualification de l'exécutif. Et leur réticence intellectuelle a été d'autant plus forte qu'elle s'enracinait dans un contexte de violent rejet du pouvoir ministériel de l'Ancien Régime. Alors que la figure du roi restait encore intouchable en 1789, en 1791 encore, puisque le pouvoir exécutif était donné au roi, auquel on voulait donner une place la plus subordonnée possible. Et le signe de cette subordination, c'était d'en faire le détenteur du pouvoir exécutif. Mais alors que cette figure du roi restait intouchable, c'est sur les ministres que se fixeront tous les ressentiments et les mécontentements. Et les cahiers de doléances étaient ainsi remplis de récriminations contre les crimes commis par les ministres. Et cette notion de crime des ministres se retrouvera dans nombre de pamphlets de la période et même dans un certain nombre de titres d'ouvrages à succès. Et une foule de libelles introduiront de la sorte, dès les premiers jours de 1789, ce procès de l'action ministérielle. Dans les Révolutions de Paris, dans un des premiers numéros, on peut ainsi lire « Depuis l'origine de la monarchie, nous avons alternativement gémi sous le despotisme féodal et sous le despotisme ministériel. » Et Billaud-Varenne se fera significativement connaître en publiant un despotisme des ministres de France qui comportait 3 volumes. Et la dénonciation de ce despotisme ministériel faisait absolument consensus. C'était une façon de critiquer le pouvoir exécutif, mais en absolvant par une pieuse fiction, c'est un mot de Mirabeau, le monarque lui-même. Et si certains prenaient dans un premier temps la précaution de considérer que le pouvoir ministériel dégrade le pouvoir exécutif, c'est une expression de Talleyrand, c'est très rapidement ce dernier pouvoir exécutif qui fut directement mis en accusation, suspecté d'être spontanément porté au crime, comme on disait à l'époque, au crime de lèse-nation. Et tous les débats constitutionnels de 1791 témoigneront amplement de cette suspicion. Au moment où les constituants repoussaient fermement l'idée d'un droit d'initiative qui serait attribué en matière législative au roi ou à ses ministres, Barrère notait ainsi sans embâge « Le pouvoir exécutif sera toujours l'ennemi du pouvoir législatif et il lui fera tout le mal qu'il pourra. C'est le combat établi dans les systèmes politiques. » La formule abrupte résumait bien le sentiment général de l'époque. Et fait significatif, c'est le terme de même de pouvoir que l'on cherchera à faire disparaître de la dénomination de l'exécutif. On voulait le dégrader en le requalifiant plus modestement de fonction ou d'autorité. Et Sieyès, qui sera toujours aux avant-postes de l'imagination sémantique pendant la Révolution, essaiera les expressions de commission exécutrice et même de pensée combinante et régulatrice, ou de proviseur de l'établissement public, de commission intermédiaire des pouvoirs, pour éviter de prononcer ce terme jugé menaçant de pouvoir exécutif. L'exécution était de la sorte resserrée dans le sens le plus étroit et le plus mécanique que pouvait prendre l'expression, de telle sorte qu'elle ne puisse en aucune manière porter atteinte à la puissance de la loi comme expression de la généralité. Condorcet rêvait même de mettre en place ce qu'il appelait un roi-machine, exploitant en politique les possibilités ouvertes par la nouvelle science des automates. Il faut au peuple qui veut être libre et paisible, écrivait-il, des lois, des institutions qui réduisent à la moindre quantité possible l'action du gouvernement. Condorcet allait même jusqu'à parler de la nécessaire nullité du gouvernement qui devait résulter d'un système de lois profondément combiné. La disqualification du pouvoir exécutif n'a pas seulement plongé ses racines dans la culture de la généralité que je viens d'exposer. Elle s'est aussi nourrie de l'idée largement répandue que le gouvernement était une affaire simple en son principe et qu'un petit nombre de lois suffisait à régler l'activité sociale. L'utopie libérale d'un gouvernement à bon marché a donc parallèlement joué un rôle majeur pour conforter la suspicion des constituants vis-à-vis du pouvoir exécutif. La plupart d'entre eux croyaient sincèrement que l'excroissance administrative du pouvoir exécutif n'était qu'un effet de l'absolutisme, en même temps qu'il s'opposait à la doctrine de la division des pouvoirs et affirmait qu'il n'y avait qu'un seul pouvoir qui résidait dans le corps législatif. Ils imaginaient dans l'ordre politique une mise en œuvre de la loi aussi immédiate qu'il concevait son application mécanique dans l'ordre judiciaire. Et Roederer, un des grands pères fondateurs de la Constitution de 1791, avait symboliquement proposé, dans le même esprit, de rebaptiser tous les ministères « ministères des lois de l'intérieur, de la marine, de la défense, de la guerre, pardon », pour bien souligner leur caractère subordonné. Et des voix s'élèveront aussi pour que le roi, détenteur du pouvoir exécutif dans la Constitution de 1791, ne soit considéré de façon diminutive que comme le premier fonctionnaire public. Formulation que retiendra la loi. Dès après l'adoption de la Constitution de 1791, on ne cessera en outre de limiter et d'encadrer le pouvoir des ministres, voire de chercher à les humilier en réduisant leur traitement. La lecture des archives parlementaires fourmille de détails sur ces volontés d'humiliation et de réduction du rang des ministres. Plus tard, dans le cours de la Révolution, au moment où furent précisées les attributions du comité de salut public, qui était, lui, un organe direct de la Convention, c'est les comités qui ont remplacé les ministères. C'est la grande nouveauté de 1793. Barrère notera à ce moment-là, comme il ne s'agissait que d'une évidence, le ministère n'est qu'un conseil exécutif chargé des détails d'exécution, surveillé avec une grande activité et dont les chefs viennent chaque jour et à des heures indiquées recevoir les ordres et les arrêtés du comité de salut public. C'était bien dire que le pouvoir exécutif était uniquement une commission du pouvoir législatif dans le sens le plus matériel du terme. Et Robespierre qualifiera au même moment les ministres de simples instruments mécaniques du comité. L'article 1er du décret de décembre 1793 précisera ainsi que la Convention est le centre unique de l'impulsion du gouvernement. Et ce sont effectivement les comités de la Convention qui ont exercé effectivement le pouvoir. Et fait significatif, tous les actes de ces comités sous la houlette de la Convention seront alors présentés comme des lois, même lorsqu'il ne s'agissait que de décisions circonstancielles portant sur des objets spécifiques. Et l'entreprise de dénégation du pouvoir exécutif culminera en avril 1794 avec la suppression du Conseil exécutif et partant de la charge de ministre. Et ce sont 12 commissions soumises directement à l'autorité du comité de salut public qui les remplaceront. Au cours du processus qui avait mené à cette décision radicale, Saint-Just notera « Tous les ennemis de la République sont dans son gouvernement. » Et les bureaux ont hélas remplacé le monarchisme. Saint-Just qui poursuivait « Il est impossible de gouverner sans laconisme. » Quelques mois plus tard, Billaud-Varenne avertira dans le même sens. Dès que la centralité législative cesse d'être le pivot du gouvernement, l'édifice manque par sa principale base et s'écroule infailliblement. Et Robespierre lui-même, dans son fameux discours sur le gouvernement représentatif, résumera les choses en disant qu'il s'agit de rendre les hommes heureux et libres par les lois, et qu'il appelait dans ce discours, je le cite, « à fuir la manie ancienne des gouvernements de trop gouverner ». Le pouvoir exécutif reprendra certes consistance pratique après Thermidor, et la constitution de l'an III le consacrera dans des termes nouveaux, mais on ne saurait pourtant y voir une véritable rupture. Et c'est aussi vrai du sens qu'il convient d'attribuer à l'introduction concomitante dans la constitution de l'an III du bicamérisme, ou encore à la reconnaissance du caractère positif que pouvait jouer une certaine division des pouvoirs. Ce sont des prudences et des vues pratiques qui ont alors commandé ces différents changements d'attitude. Mais le principe de la centralité législative n'a pas alors été abandonné après Thermidor. Il a simplement été aménagé. L'idée qu'il fallait, je cite, « libérer le corps législatif par son oppression de l'exécutif » restera ensuite dominante. Même si les hommes de l'an III affichèrent leur conservatisme sur bien des points, ils resteront en effet fidèles à l'esprit précédent des institutions. On parlera alors encore d'organiser le gouvernement dans la représentation nationale. Et le dogme de la suprématie législative n'a ainsi aucunement été entamé par la chute de Robespierre. le pouvoir exécutif, sous le Directoire, est resté pensé dans le cadre précédent de la thématique du Comité de salut public. Et ce Directoire restera lui-même, composé des trois directeurs, comme un pouvoir totalement subordonné au législatif. Et un Sieyès dira en ce sens que le gouvernement, qui résidait pour lui, c'était clair, au sein de la Convention, était une pensée, la pensée générale et directrice, alors que le pouvoir exécutif n'était que l'action. Et on verra ainsi Barrère soulignant l'an 5 que l'esprit du gouvernement et des lois est l'échelle que les ministres doivent rapporter des séances du directoire pour mesurer ensuite, dans les détails de leur bureau, les opérations d'administration publique qui s'y ordonnent. Le pouvoir exécutif n'était donc que le détail des bureaux. La vigoureuse dénonciation de la terreur de cette période n'aura donc nullement entamé la vision précédente du pouvoir exécutif. Les thermidoriens n'eurent pas l'intelligence constitutionnelle de leurs sentiments, sentiments qui, eux, étaient en rupture avec 1794. Il faut aussi souligner que cette prééminence du législatif par rapport à l'exécutif a été aussi le fait de la tradition constitutionnelle anglaise et américaine. L'Angleterre était en Europe la terre de l'invention du parlementarisme, on le sait, mais elle a été aussi à l'origine de la conception libérale d'un pouvoir exécutif inscrit dans un rapport de check and balances avec le pouvoir législatif. Plus qu'ailleurs en Europe, le pouvoir exécutif a semblé jouir d'une marge véritable d'autonomie en Grande-Bretagne, au prix, et c'est là toute l'originalité du système britannique, de l'introduction d'un mécanisme de mise en jeu permanent de ce pouvoir à travers l'exercice du principe de responsabilité politique du cabinet. En Grande-Bretagne, la conquête d'une marge de liberté pour l'exécutif s'y est ainsi liée de façon originale à l'acceptation de différentes formes de sa mise à l'épreuve. Le renforcement continu de l'exécutif du début du XVIIIe au XIXe siècle n'a donc revêtu en Grande-Bretagne aucun caractère absolutiste ou dominateur. Il s'est au contraire inscrit dans un développement des formes d'engagement de la responsabilité, formes d'engagement qui faisaient la part belle aux droits et aux prérogatives du Parlement. À distance des formulations françaises d'un pouvoir un et rationnel, le modèle britannique a fait des rapports entre l'exécutif et le législatif un jeu à somme positive, alors que le cas français était clairement inscrit dans un jeu à somme nulle. Et la perception de la loi comme simple règle dans un pays de common law et non pas comme institutrice du social avait également, bien sûr, joué son rôle dans cette construction. Et la position d'un premier ministre anglais s'est paradoxalement avérée de la sorte être beaucoup plus forte, par exemple, que celle d'un président américain au XIXe siècle. Ce dernier président était certes pratiquement inamovible, mais il était doté d'un pouvoir de commandement strictement encadré. Et le système coopératif de type britannique, qui s'est progressivement mis en place sans avoir été préconçu, était plus contraignant, mais finalement plus favorable au développement de l'exécutif. Mais, en même temps, c'était bien à l'origine le Parlement qui était le maître. Dans la magistrale étude de la Constitution britannique, telle qu'elle fonctionnait réellement, qui était publiée au mi-temps de l'âge victorien, Walter Bagehot dira dans The English Constitution, il dira ces mots à propos du cabinet. Par ce mot nouveau de cabinet, nous désignons un comité du corps législatif choisi pour exercer le pouvoir exécutif. Le cabinet avait cette originalité d'être un pouvoir exécutif tout à fait nouveau dans sa forme en Europe, nouveauté qui était indexée, je le rappelle, sur cette acceptation d'une mise en jeu de sa responsabilité. Il y avait donc dans le phénomène du cabinet, longuement, c'est le cœur du livre de Bagehot, il y avait donc une sorte de balance entre puissance accrue du cabinet et fragilité accrue du cabinet, que la puissance était payée par la fragilité. Et cette puissance payée par la fragilité, dans le cas britannique, elle était liée au fait qu'il n'était qu'un, in fine, un comité du corps législatif. Et Bench Hot note, la législature a beaucoup de comités, mais évidemment, celui-ci, le cabinet, est le plus important. Et le Parlement, pour Bench Hot, restait bien ainsi le maître, mais il le restait sous les espèces d'une fusion. L'expression revient à maintes reprises sous sa plume, de l'exécutif et du législatif. Le cabinet, disait Bench Hot, est un comité mixte, une boucle qui rattache la partie législative de l'État à sa partie exécutive. Par son origine, l'exécutif appartient au législatif, mais fonctionnellement, c'est plutôt l'inverse qui se manifeste. Le propre de l'exécutif anglais, pour le dire autrement, était d'être une créature émancipée, mais qui restait sous une forme de contrôle aussi vigilant que permanent du législatif. Le pouvoir de la sorte était compris outre-Manche comme l'exercice d'une activité, d'une relation dynamique entre activité et contrôle. Situation distincte donc de la formule du gouvernement d'assemblée vers lequel a longtemps cessé de tendre le modèle français. Aux États-Unis, on le sait, les pères fondateurs se sont, quant à eux, élevés contre l'idée française qu'un pouvoir exécutif vigoureux était contraire au génie d'un gouvernement républicain. Il y a là de nombreux développements dans le fédéraliste, et notamment le fameux numéro 70 dû à la plume de Hamilton. Mais en même temps qu'ils organisaient la séparation des pouvoirs, la sphère du pouvoir exécutif dans le système fédéral, des origines en tout cas, restait extrêmement modeste. Et la culture politique américaine n'a simultanément cessé de lier l'idée de bon gouvernement à celle de gouvernement à bon marché. Et c'est même le gouvernement américain qui donnera en quelque sorte ses lettres de noblesse à cette revendication extrêmement permanente tout au long du XIXe siècle d'un gouvernement réduit et d'un gouvernement à bon marché. Bien sûr, on peut noter les distinctions qu'il y a, et je les fais très rapidement à propos des États-Unis et encore plus que de l'Angleterre, de montrer les différences qu'il y a dans les formes d'organisation du rapport entre le législatif et l'exécutif. Mais ce qu'il faut reconnaître fondamentalement, c'est que même si le cas français a représenté une exacerbation toute particulière du pouvoir législatif et un déni tout particulier du pouvoir exécutif, c'est bien dans l'ensemble des pays démocratiques le pouvoir législatif qui était considéré comme le cœur et le vecteur de la construction du gouvernement représentatif et des formes modernes de la démocratie. Et cela aura une énorme conséquence sur les visions qui seront développées de ce que veut dire le progrès démocratique, et ce que nous verrons dans quelques minutes.